haricots et alcôves, bananes et couscous, tagine et falafel, mots sucrés, mots de miel, mon élixir, ma gazelle, mon sirop. Je ne vais pas faire le zouave, mais moi aussi je parle arabe, un chouïa. Ce matin, me réveillant, je me suis dit vite un kawa. Et disant cela, je parlais presque arabe, comme Monsieur Jourdain faisait des vers sans le savoir dans Le bourgeois gentilhomme de Molière. Mais je me suis arrêté là, ce qui n'est pas le cas de l'héroïne de Arabe, roman de notre invitée Hadia de Charrière. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Votre héroïne se réveille et elle parle arabe, couramment, sans jamais l'avoir appris.
Et sans l'avoir jamais entendu.
Et sans être arabe.
Et sans être arabe.
Puisqu'elle est blonde, avec des yeux bleus, aucune forme, elle ne ressemble en rien au stéréotype de l'arabe.
Elle n'est pas du tout méditerranéenne.
La parole jaillit. C'est vous qui l'écrivez.
Oui, la parole jaillit spontanément. Elle parle l'arabe parfaitement, couramment, et comme si elle l'avait toujours parlé.
Ce pourrait être un roman fantastique. Ça l'est un peu d'ailleurs, non ?
Ça l'est plus ou moins parce qu'on a des exemples assez précis décrits dans la littérature médicale de personnes se réveillant en parlant une langue qu'ils ignoraient jusqu'alors, en général après un accident et après une lésion cérébrale. Mais ça existe et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une jeune croate qui s'est réveillée en parlant couramment l'allemand. Et quand on passe des imageries, on se rend compte qu'il y a des modifications cérébrales. Donc ça pourrait être de la science-fiction, ça se contente d'être la science-fiction humaine qui est possible, peu probable, mais possible.
Le début, l'idée de ce roman, c'est ce constat médical que vous avez fait ?
Absolument pas. Le début de ce roman, c'est quelque chose de très spontané, de quasiment viscéral, où je me réveille un matin et puis je commence à écrire sur mon ordinateur et j'écris arabe et les 15 premières pages du roman.
Avec quelques mots d'arabe ?
Avec quelques mots d'arabe.
Sachant que vous le comprenez ?
Que je le comprends parfaitement, parce que mes deux parents sont syriens et que ma mère m'a toujours parlé en arabe depuis ma naissance, et que je comprends, mais que je ne parle plus.
Plus.
Que j'ai sans doute parlé enfant, dans ma toute petite enfance, et la langue parlée m'a vraisemblablement quittée, je le formalise aujourd'hui, au moment où j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans.
Donc traumatisme et oubli de la langue, comme votre héroïne, sans avoir de traumatisme, découvre qu'elle parle une autre langue.
Absolument, sans traumatisme en tout cas direct ou sans avoir eu de traumatisme conscient, elle se réveille et poupouf, elle parle l'arabe.
Poupouf. Donc c'est un roman qui pourrait être fantastique, c'est un roman qui pourrait être quasi policier dans l'âme humaine, parce qu'elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive quand même. C'est pas si courant que cela, même s'il y a des cas avérés.
Non, c'est vrai, mais à la différence d'un roman de science-fiction ou d'un roman policier, on n'a pas du tout cette attente d'angoisse. Et Maya, c'est un personnage que j'ai adoré écrire parce qu'elle est complètement émerveillée par cette nouvelle langue qui s'offre à elle. Et par conséquent, j'ai le sentiment que le texte s'apparente plus à un conte, finalement.
Est-ce qu'on se transforme en parlant une autre langue ? C'est toute la question aujourd'hui. On parlera de votre livre. Je vous ferai aussi écouter le philosophe Michel Serres qui vient de disparaître. Mais avant, on prend des cours ailleurs pour mieux apprendre le français. Ailleurs, c'est aujourd'hui dans la très belle ville de Prague où nous retrouvons Françoise Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes attachée de coopération pour le français à l'Institut français et donc directrice de cours et vous préparez au Petit Pragois un été assez studieux.
Tout à fait. Nous allons proposer tout au long de l'été des formules de cours intensives pour les publics qui souhaitent profiter de l'été pour améliorer leur connaissance en français.
Alors qu'ont-ils de spécifique ces cours ? Est-ce que ça veut dire que vous allez davantage leur faire lire Martine à la plage que Martine au sport d'hiver ?
Oui, c'est un peu ça, tout à fait. Ils ont de spécifiques leur rythme, c'est-à-dire que les personnes peuvent étudier le français entre 2 et 5 heures par jour. Bon, là où normalement pendant l'année c'est 3 heures par semaine maximum, là ils peuvent aller jusqu'à 5 heures par jour. Et d'autre part, nous essayons de combiner des formules de cours donc généralistes avec des ateliers plus ludiques, plus créatifs, avec des approches méthodologiques et pédagogiques un peu différentes.
Par exemple,
pour les publics juniors, nous allons proposer un atelier qui s'appelle Caméra au point, avec des réalisations de petites vidéos, petits sketchs en français qui vont leur permettre de travailler autour du son et de l'image en même temps que de travailler leur langue. Également, on va proposer pour les petits, c'est-à-dire à partir de 7 ans, un atelier ludique qui va beaucoup solliciter leur apprentissage sensoriel pour créer une proximité avec la langue et encourager, motiver l'apprentissage.
Alors les inscriptions commencent aujourd'hui, s'ouvrent aujourd'hui, donc c'est peut-être un peu trop tôt pour dire s'il y aura beaucoup de monde ou pas, mais vous attendez combien d'apprenants ?
Nous attendons en général autour de 300-350 apprenants sur l'ensemble de l'été. Nos cours commencent la première semaine de juillet et se terminent la première quinzaine de septembre. Donc tout au long, 300-350 apprenants.
Et le français se porte bien à Prague ?
Le français se porte plutôt bien à Prague, tout à fait. Nous avons dans l'année environ 3000 inscriptions, plutôt en hausse régulière. Et puis également, il se porte bien en termes de présence dans les différents événements culturels que propose la ville, qui sont très riches.
Mais pourquoi les Tchèques apprennent-ils le français ? Parce que c'est chic ou parce que c'est pratique ?
Parce qu'ils aiment le français, voilà. Il y a un lien affectif assez fort avec le français. Donc, on va dire, nous, 50% de nos publics viennent pour le plaisir. Et puis, entre 35 et 40% viennent pour leurs études et puis une petite part pour le travail. Mais c'est effectivement pour le plaisir en majorité.
Le plaisir et l'amour, il n'y a que ça de vrai. Merci beaucoup Françoise Rousseau et bel été donc à enseigner le français aux jeunes pragois. Merci.
Je vous remercie également. Au revoir.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole. Vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages. Ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Douce France, quand Rachida chante Charles Trenet dans De Vive Voix sur RFI et dans votre roman Adia de Charrière, arabe, Taha est le symbole d'une double identité, d'une double voix. Pourquoi vous le citez ? Quel rôle il a pour vous ?
En fait, Rachida et son groupe Carte de Séjour m'ont marqué profondément quand j'avais pour la première fois vu le clip vidéo, je sais pas, j'avais 6-7 ans. Et je me souviens d'être restée un petit peu en émoi devant la télévision. Je mesurais pas du tout la portée politique de ce geste, de cette reprise de chanson de Charles Trenet, avec derrière cette musique de rail, ces rythmes de Derbouka, cette voix gutturale qui n'est pas du tout lissée, cette revendication en fait d'appartenir de la même façon à la culture algérienne et à la culture française. Et je crois que c'est ça que ça représentait pour moi, Rachita et Carte de Séjour. C'est la première fois que visuellement et de façon audible, il m'était rendu possible d'appartenir à deux cultures pleinement.
Vous-même, vous êtes dans ces deux cultures d'une certaine façon, puisque vous le disiez, né de parents syriens, ayant vécu dans l'arabe et étant venu en France très très jeune, dans l'enfance. Et d'ailleurs, vous êtes un peu l'inverse de votre personnage qui, dans ce roman arabe, découvre qu'elle parle arabe un bon matin en se levant, alors qu'elle n'a jamais vécu qu'en français, écrivez-vous.
Oui.
Et c'est joli cette idée de vivre en français comme si la langue était un pays.
Oui, comme si la langue finalement était même, je pense, une sorte de berceau maternel de l'âme. C'est-à-dire qu'on est bercé par la langue dans laquelle on vit. Et disons que Maya, mon personnage, elle a vécu en français, son âme était française. Et à l'inverse, la mienne était complètement arabe. Et effectivement, à la façon de Rachita et de cette chanson « Douce France » reprise par Carte de Séjour, j'ai baigné dans les deux cultures. Et la difficulté que cela a représenté finalement assez rapidement, c'est que je me suis rendu compte que je vivais dans un monde qui avait du mal à accepter finalement la cohabitation de ces deux cultures. Comme si l'une devait forcément prendre le dessus sur l'autre.
Quel est le lien entre la langue et l'identité? C'est la question centrale du livre. Hein.
Ouais, c'est la question centrale du livre et je me suis posé la question pendant assez longtemps. Et je pense qu'il y a en fait c'est plurifactoriel, c'est très riche en termes de réponses. Et j'ai une anecdote par exemple qui moi je trouve assez frappante. Là, je pars au Japon l'été prochain. J'ai un point. Hein, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, avant d'aller au Japon, il faut que j'apprenne le japonais. Alors j'ai essayé, j'ai passé.
C'est compliqué, hein.
Ouais, j'ai passé 6 mois à en faire 1 heure par jour, à commencer à apprendre l'alphabet, à me familiariser avec les phonèmes. À vouloir entendre des mots. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, on pouvait accéder à une culture dans une sensation très primitive et quasi viscérale en parlant la langue. Et pour moi, il y a vraiment 2 items qui permettent de se sentir très proche d'une culture. Il y a la langue, parler, et puis il y a la nourriture. Et finalement, les deux sont deux fonctions très orales. Mais je pense qu'on peut se sentir très proche d'une culture par la langue. A contrario, perdre la langue, je pense, ne fait pas perdre la culture. Ça met en sourdine. Pendant assez longtemps, c'est des mots que j'aime pas trop, mais pour m'assimiler à la culture française, pour accepter cette nouvelle identité française, je pense que spontanément, j'ai perdu la langue arabe, je ne la parlais plus. Je continue à la comprendre, mais je ne la parlais plus. Mais en réalité, ça n'a pas gommé, et bien heureusement, ça n'a pas gommé la culture arabe de mon être.
Mais dans votre roman, vous allez presque plus loin dans l'interrogation de ce lien identité et langue. Vous dites que la langue peut précéder l'identité. Votre personnage se demande si finalement elle est arabe parce qu'elle parle arabe.
Oui,
alors
absolument.
Que tous les signes disent qu'elle est bonne française, quoi. Enfin, vous voyez, bonne française au sens du stéréotype.
Oui, parce que la langue, ça a quelque chose extrêmement viscérale pour plusieurs raisons. On dit qu'on constitue sa bibliothèque de phonèmes avant l'âge de 6 ans. Donc déjà, quand on veut parler une langue parfaitement, sans avoir aucun accent, il faudrait qu'on en ait entendu tous les phonèmes avant l'âge de 6 ans, donc dans la petite enfance. Donc déjà, c'est quand même assez rare de pouvoir constituer une bibliothèque de phonèmes comme ça, spontanément aussi jeune. Donc ça me laisse penser qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du lien maternel. Et puis, la langue, elle naît quand même au plus profond de son corps. La façon qu'on a de parler, de s'exprimer, les phénomènes physiologiques qui mènent à la parole sont des phénomènes complètement ancrés et cérébralement, mais aussi physiologiquement, dans l'œsophage, dans la bouche. Donc oui, je pense que la langue, en fait, c'est l'expression extérieure d'une culture qu'on a à l'intérieur de soi.
Mais alors, dans votre roman, finalement, Adia de Charrière, est-ce qu'elle est arabe, votre héroïne qui se réveille un bon matin en parlant arabe?
Je pense qu'elle est totalement non seulement parce qu'elle parle l'arabe, mais aussi parce qu'elle parle un arabe qu'elle n'a pas appris à l'université, qu'elle n'a pas appris en cours du soir, à l'âge adulte. Elle parle un arabe qui s'est imposé à elle, et c'est parce qu'il s'est imposé à elle qu'elle l'est.
Alors sur cette question de langue, je vous propose d'écouter finalement comme un hommage, d'écouter Michel Serres qui vient de disparaître, grand philosophe, formidable pédagogue, qui a beaucoup écrit sur la question de la nature, de l'éducation et de la langue. On peut citer un de ses derniers textes, Défense et illustration de la langue française aujourd'hui, écrit avec le journaliste Michel Polaco. Mais ce fut pas le seul livre autour de cette question, c'était une préoccupation continuelle, la question de la langue. En 1991, Michel Serres écrit Le tiers instruit et il est sur RFI. Au micro de Tchelaminar.
Sur la couverture du livre, j'ai tenu à ce qu'il y ait un arlequin. Vous savez comment est habillé arlequin ? Il est habillé avec une sorte de tunique ou de manteau qui a plusieurs couleurs, plusieurs formes, etc. Et je dis que construire l'universel, c'est additionner les cultures et les savoirs de tous les autres. Et donc l'apprentissage, c'est aller vers l'autre, apprendre l'autre culture, l'autre langue, l'autre. Et à la fin, je dis au fond, oui, l'apprentissage, c'est un métissage. Tu ne sais pas l'anglais, apprends l'anglais, tu verras au bout d'un certain temps, ta bouche, qui est tellement habituée à parler français, se met à parler anglais, et c'est une bouche métisse entre celle qui normalement parle français et celle qui se met à parler etc. Vous voyez, et alors la bouche se transforme, et c'est une bouche moitié-moitié, elle est métisse.
Nadia de Charrière, que pensez-vous de cette idée émise par Michel Serres que l'on métisse avec la langue ?
Je suis assez d'accord avec ça et je suis assez amusée d'entendre l'image de l'arlequin avec ses différentes couleurs parce que il y a une image que moi j'aime bien sur les différentes cultures et sur le fait de les mélanger. C'est que j'aime bien imaginer que les cultures sont comme des tubes de gouache de couleurs. Et je pense que quand on a envie de mélanger les cultures entre elles, qu'on a envie de parler d'assimilation, d'intégration, on mélangerait les cultures et on obtiendrait une couleur uniforme qui conviendrait à tout le monde. Alors qu'en réalité, je pense que les cultures sont comme des couleurs qui se mêleraient sans se mélanger, comme cette tenue d'Arlequin. Et non seulement ce métissage, il existe, mais à la seule différence que je dirais qu'on n'est pas moitié-moitié, ou un tiers avec trois langues. Je pense au contraire, on est pleinement toutes ces cultures et qu'elles peuvent cohabiter pleinement chacune. Et à mon sens, un des échecs que l'on peut avoir quand on essaye spontanément de mettre des cultures entre elles, c'est de vouloir les amoindrir et de se dire si je commence à parler une autre langue, alors par exemple je suis française, j'apprends l'arabe, alors je serai 50% et 50%. Non, en fait on est pleinement 100% et 100% de chaque.
Dans votre roman, l'héroïne Maya, mais c'est un peu vous forcément, écrit, parce qu'elle s'interroge beaucoup sur cette question-là, écrit « Je ne suis pas autre, je suis davantage ».
Oui, absolument. Mais donc c'est bien, au moins je suis cohérente.
Vous êtes cohérente avec ce que vous écrivez, c'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, si on établit un lien entre la langue et l'identité, j'imagine que être anglais, pour reprendre l'exemple de Michel Serres, ou être arabe n'est pas exactement la même chose en France aujourd'hui.
Non, c'est pas exactement la même chose, et c'est pas exactement la même chose parce que, à mon sens, on n'a pas su se décorréler des considérations géopolitiques et religieuses pour considérer une culture. Et on oublie ce qu'est la culture. On l'oublie parce que on a l'impression que c'est pas important, la culture. Et je pense qu'on doit redonner ces lettres de noblesse à la culture en se décorrélant justement de toutes les autres problématiques pour pouvoir permettre aux humains de s'accepter, de s'aimer, d'aimer leurs racines, en fait. Et pouvoir, du coup, se mélanger à d'autres cultures plus aisément. Quand on n'arrive pas à se mélanger aux autres, ça peut être parce qu'on a peur justement de s'effacer soi-même. Si on est sûr de sa propre culture, si on l'aime, si on l'accepte, alors il va être plus simple d'acquérir des notions de culture supplémentaires et autres sans avoir peur d'affadir sa culture d'origine.
Alors le racisme n'est pas la question centrale de votre roman Nadia de Charrière, mais vous évoquez quand même les a priori justement qui existent sur les Arabes, les stéréotypes qu'empruntent les impulsifs au détriment des cultivés. Je me suis dit que c'était en des termes délicats, fort bien dit.
Il faut toujours être un peu délicat.
Il faut toujours être un peu délicat, même avec des attitudes racistes.
Oui, alors en plus, le racisme, quand on essaie d'étudier biologiquement ce que c'est malheureusement, nous sommes des êtres de biologie cellulaire, c'est ni plus ni moins de l'économie d'énergie. C'est beaucoup plus simple, économiquement parlant, en termes d'énergie, d'être raciste que de ne pas l'être. C'est pour ça que je parle des impulsifs. Il faut apprendre à prendre son temps quand on considère l'autre, il faut apprendre à surmonter la facilité. Et oui, je parle beaucoup des stéréotypes, Par exemple, moi, me concernant, quand j'étais petite, je me souviens, alors j'ai la peau blanche, j'ai les yeux bleus. Quand j'étais enfant et que je disais que j'étais arabe, on me disait, ben non, c'est pas possible, t'es syrienne, t'es tunisienne, non. T'es marocaine, non, bon, bah, t'es pas arabe. Alors je disais, mais oui, mais je suis syrienne. Alors on me disait, mais c'est quoi la Syrie? Bon, en plus, en France, on connaissait pas bien la Syrie à l'époque. Et on me disait, mais oui, mais donc c'est pas pareil. Et c'est vrai qu'il faut, on peut essayer de s'éduquer en s'ouvrant et en n'ayant pas peur de rencontrer quelque chose ou quelqu'un qui ne corresponde pas à tout ce qu'on connaît. On peut aller au-delà de ce qu'on connaît, mais ça demande un petit peu d'énergie.
Formidable roman sur l'altérité, sur la découverte de l'autre et de soi-même par la langue. J'aimerais, Adia de Charrière, que vous nous lisiez un extrait de votre roman. C'est à peu près à la moitié du livre. Maya est dans un restaurant libanais, elle lit le menu et elle est dans un restaurant où elle a ses habitudes.
Maya le connaît par cœur et pourtant, elle le découvre pour la première fois. Sur fond grenat, encadré de quatre petits cèdres émeraudes, sous ses yeux éblouis, subitement les lettres s'éveillent. Il lui semble les entendre. Mais oui, elle tend l'oreille, les syllabes chantent. Chaque mot renaît, chaque nom prend vie. Libérés de leur unique et modéré phonème français, les R se raclent, les R s'enroulent. Délivrés de leur mutisme, les H hypoxiques, trop longtemps privés d'air, longuement s'aspirent. Cette nouvelle rencontre fascine Maya. Ses yeux s'émerveillent, ses papilles s'éveillent. Fatayer, taboul et mtabal. Au-delà de leur identité, elle leur découvre une signification. Au-delà du papier plastifié, ils vivent. Plus rien n'est figé, ni les lignes, ni les prix. Les codes se décoincent, nouvellement affranchis, chiffres et lettres se soulèvent. Ra'at, ma'anek, sambousek, tous les médecins font la fête. La mhalabi est tout en lait et en féminité emplit l'espace de son essence de fleurs d'oranger. Sous les yeux de Maya s'épanouit pour danser avec ardeur. Devant les mouvements sensuels de ses hanches, le knafé fond, le knafé craque, les manaïches en perdent leurs zaatar. Tin, sésame et sumac en feu d'artifice explosent, libérés des frontières linguistiques, enfin s'exposent pour mieux chatouiller l'odorat et éveiller le goût.
Le son de la langue arabe dans votre voix, Adia de Charrière, et dans celle d'Oum Kalsoum, c'est elle aussi un élément identitaire assez fort que vous citez d'ailleurs dans votre roman arabe. Vous évoquez ce concert à l'Olympia en France en 1967. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas, mais c'est vraiment la légende d'Oum Kalsoum.
Oui, c'est la légende parce qu'en fait, elle a réussi à réunir tous ces gens qui ne se réunissent jamais, et grâce à sa voix. C'est-à-dire qu'on a un personnage, à mon sens, un des premiers grands personnages féministes de notre époque, féminin, qui par sa voix extrêmement forte et par la mélancolie extrêmement importante qui s'en dégage, réussit à réunir des populations qui le reste du temps se haïssent. Et on est vraiment là exactement au centre de ce dont je parlais tout à l'heure, la culture complètement décorrélée de la géopolitique.
Si on parle de sensualité, il faut dire que ce roman, votre roman, est un roman féministe qui plaide pour le plaisir des femmes, que vous dites être souvent réprimées en public, en tout cas dans les sociétés arabes.
Oui, mais pas seulement, parce qu'en réalité, donc il y a une scène qui se déroule dans un sex shop, où Maya va s'interroger finalement quant à la féminité, et elle va se rendre compte que si la féminité est de façon malheureusement un peu évidente réprimée dans les pays arabes, dans les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, elle l'est finalement également dans les pays occidentaux. Et je crois que c'est ça aussi une de ces révélations, c'est que on peut s'imaginer que la femme arabe, que la femme orientale n'est qu'ambivalence, puisqu'elle a à la fois une image très sensuelle, comme à travers le conte des Mille et une Nuits, et en même temps une image très maintenue de féminité interdite. En France, c'est malheureusement aussi le cas. Et c'est pour ça qu'elle parle notamment de l'absence du clitoris dans les manuels de biologie jusqu'à extrêmement récemment.
Dernier clin d'œil, dernière référence à votre roman avec ce film formidable de Nadine Labaki, Caramel.
Bonjour, demoiselle.
Bonjour.
J'ai hâte d'aller vous mettre la ceinture.
Et si je refuse de la mettre ?
Oh, les boutes, je l'ai amené en sirop.
J'en ai assez, jeune homme. Je vais aller chercher un policier.
Qui me dit que Mana Daraké, qui me dit que je vais les Daraké.
Franchement, il le mérite bien, non? Il est pas mal, hein?
Tu le trouves pas mal? Ça va pas, non?
Bonjour. Où est ma quelle la fratre ou t'as le fin de téléphone?
À quoi le hasard, on le gâteau, ma bite d'écart.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire à un si joli visage?
Tu fais chauffer le sucre, s'il te plaît?
Extrait du film de Nadine Labaki Caramel. Alors, je tiens à préciser que cet extrait n'existe pas. C'est un montage entre la version originale et la version française. Ça sauve un petit peu les mots en français. Vous dites dans votre roman que ce fut une révélation.
Ce film? Oui, totalement, parce que en fait, quand je l'ai vu, je me suis rendu compte au moment du générique de fin que j'avais pas lu les sous-titres. Et on est en 2009, je suis enceinte de ma fille. Et je crois que jusqu'à ce moment-là, j'avais pas complètement réalisé que mon oreille était complètement orientale.
Et c'est un film qui vous le révèle.
Et c'est un film qui me le révèle. Et c'est un film, finalement, qui n'était pas forcément là pour me le révéler. C'était pas le sujet du film. Mais je l'ai regardé en version originale. Et je me suis rendu compte que je comprenais tout. Puis je me suis retournée, j'ai dit à mon mari, ah ben, j'ai pas lu les sous-titres. Et lui, il m'a regardé, ben, en me répondant, évidemment. C'est lui, il le savait très bien.
Est-ce que l'on peut raconter comment Maya, votre héroïne dans Arabe, c'est l'arabe?
On peut.
Dites-moi.
Maya, elle est française. Elle est française et elle n'a aucune raison de parler l'arabe. Alors, elle va chercher pendant cette journée des raisons à son arabité. Elle va notamment s'interroger quant à sa filiation, qui est un des premiers réflexes primitifs quand on découvre qu'on est une autre ou un autre que celui qu'on a toujours été.
Elle va voir sa mère en lui disant « Mais est-ce que mon père est mon père ?»
Voilà, en gros, elle y
et
va.
Et sa mère se dit « Ah là là, j'ai été amoureuse d'un homéopathe égyptien, donc c'est peut-être lui, mais on n'a jamais rien fait. »
Oui, puis alors le pire, c'est que sa mère finit par se demander si effectivement elle n'a jamais rien fait ou pas, c'est-à-dire oui. qu'elle rentre dans une espèce de trouble psychique extrêmement fort, comme tous ces gens qui n'ont pas fait beaucoup d'introspection en fait et qui veulent cacher le passé, elle finit par plus trop savoir, mais non, c'est pas ça. Alors au cours de ses déambulations dans Paris, des différentes rencontres qu'elle va faire, Maya va se rendre compte qu'elle est effectivement orientale sans vraiment savoir pourquoi. Et pendant ce temps-là, en fait, son père, n'ignorant pas être sans doute à l'origine de cette arabité, va lui rédiger une lettre. Et son père lui explique qu'il a vécu enfant en Syrie, qu'il est fils de diplomate, qu'il a vécu en Syrie, et que lui-même, français, en fait, s'est révélé à lui-même en étant sur le sol syrien. Et qu'il y retourne une fois qu'il est à l'âge adulte, parce qu'il n'y est pas resté très longtemps enfant. Et il n'a qu'une envie, alors qu'il revient en France, c'est retourner en Syrie, une espèce d'envie viscérale. Il n'a pas le choix. Alors il y retourne, il s'émerveille de la Syrie, et puis un jour il se rend compte que il n'a pas le droit de juste s'émerveiller qu'il y a la guerre juste à côté au Liban. Et il décide d'aller être reporter au Liban pendant la guerre. Et il prend des photos. Et au cours d'un bombardement, il prend en photo une petite fille qui meurt juste après la photo qu'il a prise. Il ne fait jamais développer la pellicule. Et cette pellicule qui n'est jamais développée, elle est un petit peu comme l'inconscient d'Edmond, le père de Maya. Elle renferme toute son arabité qu'il va taire à partir de ce moment-là. Et il va se taire dans silence parce qu'il n'aura pas d'autre choix que de taire son arabité. Et il raconte et montre très bien qu'à la naissance de Maya, quand il la voit, il est saisi par le bleu de ses yeux. Et pareil, de façon assez ambivalente, c'est le bleu de ses yeux qui lui révèle à lui l'arabité de sa fille.
Ce qui s'appelle ce que vous appelez une transmission transgénérationnelle, mais qui est une transmission d'amour en fait.
Qui est une transmission d'amour total et qui est une transmission finalement de... Je pense que quand on a parfaitement confiance dans quelqu'un, on est capable de transmettre son inconscient.
Merci Hadia de Charrière, formidable roman, Arabe, édité chez Jean-Claude Lattès. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci et à demain.